RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Cela fera tout juste 2 ans, le 10 janvier, que la France est intervenue militairement dans le nord du Mali. L'opération Serval a permis de libérer les régions du nord, occupées par des groupes islamistes. Mais aujourd'hui, la menace terroriste est plus forte que jamais, dans le nord du Mali, mais aussi dans les pays voisins du Sahel. Ces derniers mois, les attaques se sont multipliées. Alors, où en est-on de la lutte antiterroriste dans le nord du Mali et dans la région? Bilan et perspective, je propose d'écouter le reportage de notre correspondant à Bamako, David Baché. David, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a des groupes armés qui contrôlent la région à 100%, qui contrôlent la zone. Et il y a des groupes armés qui circulent. C'est des zones qui sont vraiment à présent sous occupation de plusieurs groupes armés. On ne sait même pas qui est qui.
Sidi Khalil Aïdara est professeur à Ansongo, région de Gao, dans le nord du Mali. Une zone de brousse reculée où les populations se sentent en danger.
Tout le monde est armé. J'ai des craintes parce que nous, nos zones ici sont interdépendantes, insédentaires. Il a sa raison d'être lorsqu'il peut se rendre en brousse, lorsqu'il peut aller paître ses animaux. Tout comme le Touareg, il est à l'aise.
Le nomade, a priori.
Non, le nomade, lorsqu'il peut venir en ville, lorsqu'il peut venir s'approvisionner et retourner. Mais tout ça là a disparu aujourd'hui. Et c'est tout ça là qui m'inquiète. À la date d'aujourd'hui, sur les 426 enseignants, dans Songo, nous avons 295 sont présents. Les enseignants de cette zone là ne sont pas prêts à y retourner. Et naturellement, s'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'études. Nous mettons tout sous le compte de l'insécurité. Parce que tu demandes à un enseignant d'aller à Talataï et tu dis, mais comment voudrez-vous que j'aille dans une zone où il n'y a pas de sous-préfet, il n'y a pas d'agent de santé, il n'y a aucun symbole de l'État. Et là, il aura raison sur vous. Au même moment, il vous dit, monsieur le directeur, je suis prêt à servir le pays là où il y a la paix. Mais dans des zones qu'on considère comme des no man's land, ce n'est pas possible.
En 2012, pendant près d'une année, le nord du Mali a été occupé par plusieurs groupes islamistes armés, ACMI, le Moudjahou, Ansar Dine. Mais depuis l'intervention militaire française et ouest-africaine de janvier 2013, les combattants djihadistes ont été largement détruits et éparpillés. Le colonel Lucity est le représentant de la force française Barkhane à Gao.
Les terroristes mènent des actions de harcèlement, mais encore une fois, ils n'ont plus la force de frappe qu'ils avaient avant que l'opération Serval intervienne. Ils ont quelques éléments résiduels. Il y a beaucoup de fractions très différentes. Il y a souvent des groupes qui sont autour d'un leader, qu'on n'a pas forcément d'ailleurs toujours identifié, qui sont très mobiles justement pour éviter de tomber sur les unités de Barkhane et de constituer des cibles faciles. C'est pour ça que je vous dis qu'ils mènent des actions de harcèlement, parce qu'ils ne sont pas capables de mener une action en force, si vous voulez, pour l'instant, enfin à notre avis. C'est souvent quelques véhicules, ça peut aller de quelques véhicules, quelques pick-up, jusqu'à peut-être une dizaine ou plusieurs dizaines. Mais il n'y a pas d'armée terroriste, à mon avis, ni en Normalie, ni même ailleurs, je pense pas. On n'a pas, pour l'instant, identifié notre ennemi comme étant celui-là.
En comprenant bien que ce sont plein de groupes très divers qui ne sont pas forcément en communication les uns avec les autres et qu'il ne s'agit donc pas d'une armée homogène, est-ce que vous avez quand même une estimation du nombre de combattants, d'hommes que ça représente?
C'est plusieurs centaines, mais pour vous dire combien, c'est très très difficile à dire.
Des propos recueillis dans la base militaire française de Gao au mois d'octobre. Les anciens occupants étaient alors déjà passés à leur nouveau mode d'action terroriste, la guerre asymétrique. Voitures piégées, attaques kamikazes et surtout poses de mines et autres engins explosifs. Les Nations Unies possèdent un service de déminage appelé UNMAS. Son chef au Mali, pour des raisons de sécurité, préfère se présenter sous le nom de Luc. Selon lui, la menace va encore augmenter.
Ce sont des engins qui demandent très peu de connaissances techniques et donc peuvent être facilement mis en place à l'avant de convois ou de patrouilles sur le terrain. Actuellement, ce sont des engins donc simples de mise en œuvre, en l'occurrence les mines, qui sont faciles à dissimuler. De l'enfant, on va dire, de l'adolescent jusqu'à l'adulte, c'est très facile de mise en œuvre. On n'est pas encore à l'échelle de sophistication comme en Irak ou en Afghanistan. On retrouve quand même déjà une variété assez large, véhicules suicides jusqu'aux engins télécommandés, même des attaques un peu plus complexes qui comprennent des véhicules suicides suivis de kamikazes équipés de ceintures d'explosifs. Le risque de ces IED va augmenter et va effectivement devenir de plus en plus sophistiqué. Voilà.
S'ils sont moins nombreux et mis en difficulté, les combattants djihadistes ont réussi à se réorganiser. Ils utilisent de nouveaux circuits d'approvisionnement qui passent notamment par le sud de la Libye et par le nord du Niger. Une situation jugée très inquiétante par la mission des Nations Unies dans le pays qui a déjà perdu une trentaine de casques bleus dans ces attaques. Arnaud Akodjenou, représentant spécial adjoint de la MINUSMA.
Depuis plusieurs mois maintenant, nous vivons cette situation pour laquelle il serait honnête de dire que nous nous sommes préparés. Nous sommes préparés à faire face, mais pas pour pouvoir faire face à une situation de guerre asymétrique. La mission s'est déployée dans le Nord, la mission coopère avec d'autres acteurs dans le Nord, mais cela doit monter progressivement en termes de gamme et en termes de procédures, de mécanismes, d'équipements et de la formation des hommes.
Est-ce qu'on peut parler d'une forme de surprise face à cette dégradation de la situation?
Je ne crois pas que cette mission, lorsqu'elle a été initiée, mise en œuvre, son début, on n'ait jamais pensé que tout allait être tranquille. Et c'est avec le désengagement d'autres forces.
La force française Serval, devenue Barkhane.
Oui, puis nous n'avons pas pu monter en puissance pour ce qui concerne les ressources.
Pas autant de casques bleus que prévus sont arrivés dans les temps.
Bon, ça c'est un premier point. Et ceux qui sont arrivés ne sont pas suffisamment équipés, ne sont pas suffisamment formés, ne sont pas habitués à cet environnement. Et nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour nous réajuster au dispositif Barkhane. C'est une réalité aussi.
À ce jour, les casques bleus sont près de 9000 au Mali, à 80% déployés dans le nord. À terme, leur effectif doit atteindre les 12000 hommes, à condition que les pays contributeurs de troupes envoient suffisamment de soldats. La MINUSMA vient d'entamer une réorganisation de ses effectifs militaires dans le nord afin de mieux faire face aux attaques terroristes. Arnaud Akodjenou.
Oui, il y a des dispositifs nouveaux, ce serait dangereux et totalement inacceptable que depuis que nous sommes sous les coups répétés des terroristes, que nous restons les bras croisés. C'est petit à petit que nous avons pris la mesure du danger. D'abord, des hommes. Il faut des hommes plus aguerris en situation. Il faut des hommes plus formés. Il y a des équipements qui viennent et qui vont continuer.
Combien d'hommes en plus? Quel type d'équipement?
Nous ne sommes pas à 12 000, malheureusement.
C'est l'objectif.
L'objectif, c'est 12 000. Il y a des hommes qui viendront rejoindre le groupe que nous avons. Il y a une restructuration de notre configuration sur place. Auparavant, il y avait deux districts, si je peux utiliser ce mot, deux régions. Il y avait la région de Gao, la région de Tombouctou. Donc, vous avez Kidal. Vous avez Kidal qui sera ouvert, équipé, structuré. Là-bas, vous aurez un général, parce que le général, aujourd'hui, il est à Gao, c'est lui qui contrôle. Vous voyez la distance Gao jusqu'à Tessalit, à Moustarat et toutes ces régions, c'est extrêmement long. Donc maintenant, le général, avec son équipe basée à Kidal, aura une force, une capacité de percussion beaucoup plus grande qu'auparavant.
La force française Barkhane, qui a pris le relais de la force Serval l'été dernier, compte quant à elle 1 000 000 d'hommes dans le nord du Mali et 2 000 autres dans les pays de la bande saharo-sahélienne, Tchad, Niger, Burkina Faso et Mauritanie. Pour le colonel Lucity, il s'agit de s'adapter au fonctionnement des djihadistes.
Selon la logique de flux qui leur permet d'aller se ravitailler au Niger ou un peu plus loin, ça peut être au nord Niger, ça peut être en Algérie, ça peut être au Burkina, ça peut être dans les pays justement du G5 Sahel. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse avoir une bonne coordination et pouvoir mener des opérations avec ces pays du G5 pour pouvoir rompre les flux terroristes. En fait, c'est comme ça qu'on arrivera à tarir un petit peu l'activité terroriste. L'objectif premier de Barkhane, hein, c'est justement de mener une lutte transfrontalière contre les djihadistes, enfin contre la présence résiduelle des terroristes au Mali en particulier, et permettre des actions transfrontalières avec nos partenaires du G5 Sahel, hein, ou les 5 pays du Sahel, de façon à ce qu'on ait en quelque sorte un droit de poursuivre ces terroristes lorsqu'ils franchissent une frontière, justement. Hein. C'est bien ça l'intérêt de cette opération par rapport à Serval, qui elle-même se cantonnait uniquement au Mali.
Il y a les groupes terroristes contre lesquels tous les acteurs entendent lutter et il y a les groupes rebelles menés par les Touaregs du MNLA, des groupes avec lesquels Bamako a engagé des négociations afin de définir un nouveau statut territorial pour les régions du Nord. Au mois de mai dernier, l'armée malienne a pourtant lancé une offensive contre les groupes rebelles dans leur fief à Kidal. Les soldats maliens sont alors mis en déroute et les groupes rebelles prennent même le contrôle de nouvelles parties du territoire. Arnaud Akodjenou, de la mission des Nations Unies au Mali.
Il y a eu un vide qui a été créé soudain, de façon totalement impromptue. Et ce vide n'a jamais pu être rétabli ou compensé.
Ça veut dire qu'après les événements de Kidal qui ont mené au désengagement des forces armées maliennes du Nord, les soldats d'AMINUSMA et les soldats français sont retrouvés isolés ?
Au premier plan. Pas seulement isolés, mais au premier plan. Et nous entrons dans la phase où il faut travailler ensemble, voir, pourquoi pas, des patrouilles entre les forces maliennes et ces mouvements pour recréer des conditions de confiance. Il faudrait qu'on y arrive. Et cette pause du processus, nous devrons nous en servir le mieux possible pour recréer ces moments de confiance entre les forces en présence.
Ce qui permettrait aux forces maliennes d'aller dans des endroits où elles sont pour le moment persona non grata.
Absolument.
Les négociations entre Bamako et les groupes rebelles reprendront en janvier. Leur succès est capital pour la lutte antiterroriste. Car la signature d'un accord de paix devra permettre de redéployer l'armée nationale dans le nord et d'unir les forces des différentes parties contre un ennemi commun, le terrorisme djihadiste. Les différents textes proposés jusqu'ici par la médiation prévoient pour cela le recrutement au sein de l'armée malienne de combattants des groupes rebelles. Zahabi Ould Sidi Mohamed, ministre malien de la Réconciliation nationale.
Il y a une autre guerre que tous les Maliens doivent engager. Ceux du sud, ceux du nord, ceux du centre. C'est la guerre contre le terrorisme. Et ça, personne ne la fera à notre place. Hein. Ce serait l'armée malienne, dans toutes ses composantes, une armée nationale. Et cette armée, c'est une armée qui est, où il y a des blancs, il y a des noirs. Mais on a une armée qui est riche de sa diversité ethnique et culturelle. Elle va être ensemble et elle va lutter contre ces terroristes qui occupent notre territoire. Parce que ce territoire aujourd'hui, il est occupé par des forces que vous avez vues ne seront pas faciles à déraciner. Parce que ces forces, elles sont implantées et l'accord va permettre que ceux qui sont pour la nation, ceux qui veulent la paix, qui se considèrent comme des Maliens, il y aura des commissions qui vont filtrer tout ça au peigne fin. Les gens qui sont auteurs de violations des droits de l'homme, il est clair que la commission va faire tous les filtrages. Et ceux qui peuvent servir dans cette armée nationale de manière positive et de manière loyale, ces gens seront appelés sous le commandement de l'armée nationale du Mali à mener cette lutte contre le terrorisme.
Cet accord de paix devra également permettre de faire le tri entre les authentiques rebelles qui ont des revendications politiques et les terroristes islamistes qui avancent masqués, jouant sur la confusion des genres pour évoluer librement, comme l'explique le ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed.
Il y a des groupes terroristes qui sont dans cette zone, mais aujourd'hui, le problème est très difficile parce que vous avez ces groupes qui évoluent avec le prétexte qu'il y a des mouvements qui ont des revendications politiques. Alors, ceux qui ont réellement des revendications politiques et dont le problème sera solutionné par l'accord et qui vont adhérer à l'accord qui garantit l'unité du Mali et la laïcité de la République, ceux-ci, ils vont être cantonnés, ils vont passer à travers le processus qui est normal. Et maintenant, ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce processus, eh bien, ceci, c'est les éléments qu'il faut combattre. Il est bien probable que des gens vont dire, nous, on ne signe pas ça. Bon, ils prendront leurs responsabilités. En janvier, ou tu es pour la paix, ou bien tu vas choisir ton camp. La duplicité ne pourra pas continuer.
Du côté des rebelles Touareg du MNLA, on rappelle que des collaborations ont déjà eu lieu avec les militaires français, notamment dans la zone de l'Adrar des Iforas. Le MNLA réaffirme donc sa détermination à combattre les groupes terroristes, mais pas au sein de l'armée malienne. Moussa Agataer, porte-parole du MNLA.
Les hommes du MNLA sont des fils du terroir. C'est des combattants aguerris, ils connaissent parfaitement le terrain. Un de nos atouts majeurs, c'est le fait de maîtriser les coins et les recoins du territoire de l'Azawad, aussi bien dans sa zone montagneuse que dans sa zone désertique. Nous ne rejetons pas une éventuelle mise à disposition des combattants de l'Azawad pour la sécurisation du territoire de l'Azawad. Ce n'est pas ça la question. Il s'agit du cadre dans lequel ces combattants seront mis. Ce n'est pas en les intégrant au sein d'unités spéciales maliennes qu'ils vont être sérieusement opérationnels. Il faut leur donner entièrement une responsabilité dans laquelle ils ont la maîtrise de leurs actes pour qu'ils puissent être à la hauteur des attentes sécuritaires qui sont liées à notre région.
Réorganisation des casques bleus dans le nord, redéploiement de l'armée malienne, participation des rebelles, coordination avec les Français de Barkhane et avec les pays voisins. La lutte antiterroriste dans le nord du Mali et dans toute la bande sahélo-saharienne ne fait que commencer. Bilan et perspective de la lutte antiterroriste dans le nord du Mali. Réalisation Marc Minatel, merci à Guillaume Thibault pour sa collaboration. Un grand reportage de David Baché.
قلداتي يا كالتسيس
يا قال النغم نسيس يا قلداتي يا كالتسيس
في رواهي لحرب سوء
في رواهي لحرب سوء
David Baché, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage, vous êtes à Bamako pour RFI. Vous terminez ce reportage en disant que la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali ne fait que commencer. Et malheureusement, les derniers événements de la semaine le confirment.
Oui, en quelques jours, il y a eu toute une série d'attaques. Celle d'un poste de l'armée malienne à Nampala, près de la frontière mauritanienne, qui aurait fait entre 7 et 11 morts parmi les militaires maliens. Une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Deux jours plus tard, c'est la ville de Djoura qui a été visée. Un civil a été tué, la mairie et la préfecture ont été détruites. La semaine passée, le maire de la commune d'Anderamboukane, près de Ménaka, et son chauffeur ont été tués. Six casques bleus ont été blessés. Sept camions transportant du matériel de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, ont été incendiés. Alors j'arrête là la liste, mais je précise quand même que ces attaques terroristes s'ajoutent aux combats qui opposent depuis près de deux semaines, par épisode, des groupes armés rebelles du Nord à des groupes armés favorables à l'État malien. Il y a eu des morts et des prisonniers des deux côtés. Donc vous l'aurez compris, Laurent, le contexte sécuritaire dans le nord du Mali est actuellement très dégradé.
Alors David, les négociations entre les autorités maliennes et les groupes rebelles du Nord vont bientôt reprendre. Elles doivent permettre de ramener la paix, bien sûr, mais aussi de renforcer la lutte antiterroriste. Et parmi les questions qu'il reste à discuter, il y a celle du rôle qui sera attribué à chacun et que vous évoquez dans votre reportage.
Oui, d'ailleurs, je voudrais revenir sur des choses qui sont dites dans le reportage. On entend notamment Arnaud Akodjenou, le représentant spécial adjoint de la MINUSMA, qui évoque des patrouilles conjointes mêlant l'armée malienne et les combattants des groupes rebelles, comme par exemple le MNLA. Arnaud Akodjenou suggère même que ces patrouilles pourraient être constituées avant la signature d'un accord. Donc je dois préciser, c'est important, que l'entretien avec Arnaud Akodjenou a été réalisé avant les derniers affrontements entre groupes rebelles et groupes loyalistes. Aujourd'hui, cette proposition semble un peu décalée par rapport à l'actualité du terrain, mais donc c'est qu'elle a été formulée avant la violation du cessez-le-feu. Alors les discussions vont reprendre à Alger. Initialement, c'était prévu pour ce mois-ci. Finalement, ce sera début février. Ces négociations seront donc difficiles et elles seront difficiles notamment sur ce point de la collaboration entre l'armée malienne et les combattants rebelles et d'un éventuel recrutement des ex-rebelles au sein de l'armée malienne.
Cette dernière question, David, pour le moment, on ne parle que de solutions militaires. Est-ce qu'il y a d'autres réponses à porter pour lutter contre ce phénomène terroriste ?
Pour le moment, pas vraiment, et c'est d'ailleurs un point de revendication de certains partis d'opposition au Mali. En plus de la réponse militaire, qui apparaît vraiment nécessaire aux yeux de tous, certains demandent une stratégie nationale politique destinée notamment aux jeunes maliens qui combattent dans les rangs des groupes terroristes pour tenter en fait de comprendre les raisons de leur engagement. L'idéologie djihadiste affichée pouvant être le symptôme d'un islam mal interprété, mal transmis ou encore de difficultés économiques ou sociales. Bref, l'idée serait d'établir un dialogue avec ces jeunes maliens pour essayer de les détourner de la voie djihadiste et pour dissuader aussi à l'avenir ceux qui pourraient encore envisager de rejoindre les rangs d'ACMI ou du Mujaho. Mais donc, pour le moment, rien n'a été mis en place.
Ce sera le mot de la fin, David Baché. Merci beaucoup. Reportage à écouter dans son intégralité sur RFI.fr. Bonne journée.